on est dans un moment où de plus en plus souvent, les archives orales sortent de leurs réserves, si j'ose dire, au sens propre, et s'exposent sur le web. En tout cas, de plus en plus souvent, ça Florence l'avait déjà noté avec Véronique, etc. Les appels à projets demandent aujourd'hui de faire des archives orales, mais également de prévoir des capsules qui seront mises en ligne, parce que c'est une sorte de réflexe actuellement de le faire, de valoriser son travail aussi sur la mise en ligne. Bien. Moi, le travail que je fais et que j'ai fait ici avec Issue de Femmes n'est pas un travail d'archive orale. Je parle de mémoire dans ce que je fais parce que ce n'est pas un travail de patrimoine, en tout cas pas de patrimoine institutionnel au sens de la définition, c'est-à-dire que ça ne relève pas d'une institution patrimoniale. La vocation de ce travail n'est pas d'être archivé. Il était d'être montré, exposé. Et donc c'est une expérience d'exposition en ligne, de parcours en ligne, à partir de mémoire orale, d'entretien oral. Néanmoins, j'emprunte beaucoup aux méthodes des archives orales que je connais, que j'ai étudiées. Et puis, à certains moments, je m'en éloigne, d'autant plus aisément, je ne suis donc pas historienne. Très rapidement, pour aussi faire le lien avec le travail précédent, ce projet et certains autres de ce domaine-là s'effectuent en parallèle d'une HDR, donc avec, en même temps, en parallèle, ils me permettent de me poser des questions, de travailler sur des concepts et de travailler sur les concepts, ce que les concepts en information communication peuvent apporter, peuvent, en quoi ils rejoignent ces montages de mémoire orale. Donc je vous propose une intervention en trois temps, je vais essayer de raccourcir la première au maximum. Un contexte théorique, un travail sur le processus de documentarisation des collectes de mémoire. Je travaille dans un institut de documentation, je suis documentaliste à l'origine de formation. Le caractère de document de ces mémoires orales m'intéresse particulièrement. Ensuite, je vous présenterai le projet Issue de Femmes rapidement et les questions qu'on s'est posées et pourquoi comment on a réfléchi à la façon de valoriser ces thématiques qui n'étaient pas simples, de l'intégration, de l'invisibilité, qui a abouti à un choix d'indifférence. Et je terminerai par, très rapidement, une petite réflexion, donc ça va être très court à la fin, sur la notion de fragment narratif et la façon dont nous avons torturé ces témoignages pour en faire un objet d'exposition. Processus de documentarisation des collectes de mémoire, pour moi la mémoire c'est ça, vu de mon point de vue et décentré de témoignages, c'est un processus d'élaboration de documents avec des étapes successives qui relèvent d'intentionnalités successives. On part d'une empreinte qui est l'empreinte dans la mémoire, un événement a laissé une trace dans le cerveau, les responsables cognitifs en parleraient mieux que moi, et puis un jour, soit par effort, soit de façon inopinée, Madeleine de Proust, etc. On se remémore les choses, parfois avec effort, parfois pas. Parfois avec l'aide d'un souvenir externe, d'un élément qui cristallise cette empreinte, une photo, un objet, un goût, une sensation. Bien. Mais pour sortir de la tête, il faut faire un récit, donc il y a une verbalisation qui peut être un récit, qui est celui qu'on va demander au témoin de livrer, qui va donc aller puiser dans cette empreinte restituée pour devenir ce que Derrida aurait appelé un texte, un architexte, c'est-à-dire un texte oral, mais construit comme un texte, un récit, bien. Mais qui n'est pas sur un support pérenne. Donc on va ensuite passer à une autre étape de la documentarisation de la mémoire, qui va être la réalisation d'un document, dont on a parlé toute cette matinée, c'est-à-dire l'inscription sur un support audiovisuel, support inscrit, il y a différentes façons d'inscrire cette mémoire sur un support qui va en permettre un certain nombre de choses. Et puis ensuite, on va avoir des réinscriptions successives à finalité archivistique, quand on est dans le domaine de l'archive. Si on veut conserver longtemps quelque chose, on va avoir des recopies, on va avoir des réinscriptions pour changer de support et de format. Et puis de l'éditorialisation. Et là, je vous demanderai de vous concentrer sur ce triangle-là, car c'est là que se situe ma problématique. Et je vous expliquerai pourquoi. On a un triangle, c'est-à-dire qu'on a des mémoires qui partent directement en exposition, d'autres qui passent par la phase de l'archivage avant d'être ensuite valorisées sous forme d'éditorialisation. J'utilise des vocabulaires, inscription, éditorialisation, patrimoine, etc., qui demandent à être éclaircis. C'est ce que je vais faire là, dans cette première partie. L'intentionnalité pour moi est essentielle. J'emprunte à Brentano, je ne vous lirai pas la définition de Franz Brentano de l'intentionnalité, mais il faut la comprendre non pas comme étant une intention au sens d'une volonté, mais comme étant le fait d'appliquer un phénomène psychique à un objet. Hein. Tout phénomène psychique contient en soi quelque chose à titre d'objet, mais chacun le contient à sa façon. Mémoriser, se souvenir de quelque chose, en plus en français, se souvenir, c'est souvenir de quelque chose, et faire mémoire, c'est faire la mémoire de quelque chose, c'est-à-dire d'élire déjà un événement dont on va se souvenir. Et on ne se souvient pas comme ça, on se souvient de quelque chose. Et toutes les étapes de ce processus de documentarisation de la mémoire, c'est à chaque fois inscrire quelque chose, recopier quelque chose, montrer quelque chose, exposer quelque chose. Et ça, c'est très important parce que ce quelque chose évolue. Ce quelque chose, c'est à chaque fois une sélection qui fait qu'à l'arrivée, dans l'exposition ou dans l'archive, on a des rescapés de ces processus. Et il y a intentionnel qui, à chaque fois, abandonne toute une série de choses. L'inscription, donc, elle a trois valeurs, à mon sens. Elle permet de réaliser une hypomnèse, hein, au sens... Aristote du terme, elle permet de mettre par écrit sur des hypomnémata, pour reprendre aussi les termes que Stigler utilise souvent, c'est-à-dire des outils qui vont permettre de manipuler cette mémoire, de la transmettre, mais aussi de la prêter à l'analyse, hein, puisqu'on a vu que écrire une mémoire, ça permet de l'analyser plus facilement et plus vite. Et ça, c'est chaque support ayant ses caractéristiques propres qui le rendent plus apte à certaines situations d'analyse ou de consultation. C'est aussi un verbatim, et ça, c'est une réflexion de Jack Goody, hein, que vous connaissez, hein, l'anthropologue, sur le fait que quand on capte le réel, et quand on capte un discours, lui captait des récits mythiques, des mythologies ethnologiques, on crée de fait une version de référence. Donc cette mémoire qu'on a inscrite, tout d'un coup, devient une version de référence, et on va pouvoir dire, ah mais oralement, dans l'autre récit oral, pour faire référence à la présentation précédente, vous n'avez pas dit la même chose que dans l'écrit. Donc l'écrit devient la version de référence à laquelle on va pouvoir dire, ben voilà, alors il y a des différences et c'est intéressant d'étudier ces différences. Et donc, Jack Goody, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à travailler sur ces réflexions, sur justement les différentes versions d'un mythe, une fois qu'il est inscrit, et la version de référence, puisqu'il note que quand un peuple accède à un moment donné à l'écriture, la première chose qu'il fait, c'est d'inscrire une version de référence de ces mythes. Hein. Donc c'est très important. Et donc nous, on va créer une mémoire de référence en inscrivant sur un support, qui peut être d'ailleurs audiovisuel. Et puis c'est un acte inscrit, hein, au sens de Maurizio Ferraris, donc ce philosophe italien qui a écrit la Documentalita et beaucoup d'autres ouvrages qui sont extrêmement jouissifs à lire, je dirais, et qui donc, bien que ce que j'en dis là n'a pas l'air d'être très excitant, qui institue un objet social. Donc Maurizio Ferraris est un disciple de Derrida, il fait beaucoup référence aux travaux de Derrida. C'est un objet social, et ici, dans notre problématique de mémoire, l'inscription, l'acte inscrit que l'on fait d'une mémoire, ça officialise, ça universalise cette mémoire. Tout d'un coup, elle devient comparable à d'autres situations, elle va pouvoir se rattacher à d'autres situations similaires, et elle s'institutionnalise aussi dans le fait que un groupe ou une institution décide de faire cette inscription et donc donne à cette mémoire une valeur supplémentaire qui est une valeur universelle. Et là, ça va nous renvoyer à la question du patrimoine qui est un acte inscrit, une inscription sur une liste patrimoniale qui va créer un objet social qui va être, par exemple, je ne sais pas, l'histoire de la France, l'histoire d'une famille, l'histoire d'un groupe social qui devient quelque chose, un objet unifiant, mais un objet qui a également une valeur performative, qui va nous donner des obligations à l'égard de cette mémoire. Par exemple, si on a recueilli la mémoire familiale de cette façon, on va se sentir obligé de la transmettre, de la donner à ses frères, sœurs, à ses enfants, à ses petits-enfants, de la préserver d'une certaine façon. Et si c'est celle d'un groupe social, également, on va se sentir investi d'une obligation de l'archiver, de la sauvegarder, de la recopier pour pas qu'elle disparaisse, etc. Donc on a tout d'un coup un devoir de mémoire qui se crée du fait d'inscrire cette mémoire. Donc c'est très performatif, parce que parfois ça dégage des coûts, hein, c'est pas neutre. Les réinscriptions successives, j'emprunte à Bachimon ce terme-là, c'est cette obligation qu'on a, Théo connaît bien, de réinscrire sans cesse sur des supports et parfois sous d'autres formats, une mémoire pour pouvoir lutter contre les deux obsolescences, sur l'obsolescence du support et l'obsolescence de sens, hein, de la compréhension, c'est-à-dire du transcodage. Il y a d'autres obsolescences encore, hein, qui sont celles de la, tout simplement avec le grand retour, le longtemps historique, de là aussi de la compréhension du contexte. Mais là, on est sur des mémoires beaucoup plus récentes. Et donc la patrimonialisation, j'en parlais. Là, j'ai travaillé sur les travaux de Jean d'Avalon sur le don du patrimoine. Jean d'Avalon énonce quatre types de procédures, et parmi ces procédures qui font pour lui patrimoine, qui donnent un statut patrimonial à un objet, il considère qu'il faut que son statut soit déclaré officiellement comme tel, c'est-à-dire par l'inscription à une liste, dans un système de conservation, inscription dans un catalogue, dans un instrument ou un fonds d'archives, ou l'inscription dans un musée, hein, dans l'inventaire d'un musée. Ça, c'est donc une inscription tout à fait instituante, et aussi, qui est quand même quelque chose qui, moi, m'a fait beaucoup réfléchir, que son nouvel état soit rendu public par une exposition, hein, qui est un des travaux majeurs de Jean d'Avalon, travailler sur l'exposition muséale. Donc la publicité d'un objet au sein d'une institution patrimoniale, c'est nécessaire pour que ça devienne un patrimoine, un usage public. Et puis pour finir, là, ce sont des concepts que nous travaillons dans notre laboratoire, qui est le DISAN-IDF, donc au sein du CNAM, c'est la documentarisation et l'éditorialisation. Alors, qui sont des concepts nés dans le domaine des bibliothèques et de la documentation, hein, qui ont d'abord été évoqués par Jean-Michel Salin. Ce sont tous les procédés que l'on met en œuvre pour faciliter l'accès, l'identification, le parcours de documents, au départ papier, et puis maintenant numérique, sur Internet, avec des bribes et des fragments composés qui transforment les procédés qu'on va devoir mettre en œuvre pour faciliter le parcours et donc l'appréhension, je dirais, d'une collection de documents ou d'un document lui-même, hein, puisque la documentarisation peut être interne ou elle peut être externe, c'est-à-dire elle peut concerner une collection de documents et on va avoir des inventaires, des bases de données, des index, des catalogues, ou alors en interne, on va avoir des index internes, des tables de matière, des titres, des sous-titres, des mises en valeur du texte, etc., qui vont permettre de poser, de l'appréhender. Selon Manuel, l'éditorialisation, ça ne serait jamais qu'une documentarisation parmi d'autres, mais à finalité de rendre public un document et qui sont donc tournés vers un public. Voilà, j'en ai fini avec ça. Alors, évidemment, l'éditorialisation, c'est intéressant parce que ça induit un changement de contexte. Et là, Matteo Treleani nous a vraiment beaucoup éclairé, a apporté beaucoup d'éléments sur la valeur du changement de contexte. Je n'irai pas plus loin, je prends une copie d'écran dans la base de données de l'INA d'un discours du général de Gaulle. J'en ai la référence ici, mais bien entendu, j'ai oublié dans quelle situation, Théo. Au moment de, voilà, c'est en 58, au moment de la crise algérienne, et bien évidemment, quand on est devant un écran de télévision et qu'on voit la vidéo dans un écran de télévision, et là encore, on est sur une archive, puisqu'on voit qu'on a une inscription INA.fr qui n'est pas d'origine, donc déjà, INA.fr vient changer notre lecture on se dit, tiens, c'est une image du passé, c'est une inscription du passé, ça donne une certaine dimension à l'image. Et bien entendu, quand elle est inscrite dans une notice avec autour tout un apport de documentarisation, d'éléments de documentarisation, évidemment, le statut de cette archive, cette image est complètement différent. Hein. De même que les mythes enregistrés par Goudy pour faire, qui était pour lui un outil de travail pour aller plus vite, pour pouvoir avoir une captation du réel encore plus réelle, peuvent prendre un sens différent aux yeux de la communauté qui va tout d'un coup prendre cette captation comme une référence, une version de référence du mythe. J'en ai fini avec mes concepts. Passons à Issue de femme. Que j'ai inscrit avec souvent issue.e.s de femmes, puisqu'on était dans un contexte genré, mais c'est pénible, alors des fois j'oublie de faire l'écriture genrée. qui avait pour titre à l'origine « Femmes migrantes entre intégration perçue et citoyenneté active » et qui est un projet qui a bénéficié de financements qui au départ... Alors, petite histoire, ça n'est pas un projet auquel j'ai répondu. Si j'avais vu l'énoncé de l'appel, je n'aurais jamais répondu à ce projet puisqu'il s'agissait de travailler sur la réussite de l'intégration. Et moi, ça, je bloque. Lancé par la DILCRA, donc la délégation à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine contre, LGBT, contre l'homophobie. Puis qui a bénéficié également de financements région, mais ça c'est la cuisine de mon partenaire. Je travaille en partenariat avec l'association Les Jardins Numériques, qui est une association milieu solidarité citoyenne et qui travaille beaucoup, qui a commencé il y a de nombreuses années dans le domaine de la lutte contre la fracture numérique. Sociale, donc qui a fait beaucoup d'installations d'espaces publics numériques et de formation et d'initiation aux bases du numérique dans des milieux défavorisés, et puis qui aujourd'hui évolue dans ces objets, mais qui est toujours autour du numérique et qui aujourd'hui plonge avec moi, avec bonheur, dans les questions de mémoire et qui est maintenant pleinement dans des questions de mémoire numérique à côté de ses activités traditionnelles. Donc il travaille beaucoup sur... le numérique en milieu migrant, numérique dans les prisons, dans les écoles, c'est différent, mais aussi initiation des enfants, et aussi dans des foyers de jeunes travailleurs, foyers Emmaüs, etc. Ce projet a été labellisé Label Paris Europe 2017. Alors, ce projet donc, en fait, c'est la FACEF, c'est-à-dire la Fédération des associations espagnoles en France, qui avait répondu à ce projet avec un historien qui avait pour projet d'enquêter et de faire des entretiens oraux, archivoraux, sur la question de l'intégration et de la réussite de l'intégration et du rôle des femmes dans la réussite de l'intégration, hein, qui était vraiment la demande de ce projet. Et puis la FACEF a, vous le savez peut-être, fait faillite et n'a pas pu mener ce projet. Les Jardins Numériques, en tant que partenaire et porteur du projet, étaient dans une situation où soit ils devaient mener le projet tout seul, soit ils devaient rendre l'argent. Et ils m'ont proposé de le reprendre. Moi, j'ai dit, bon, je ne suis pas historienne. Moi, la réussite de l'intégration, je ne sais pas ce que c'est et je ne veux pas le savoir. Mais je ne fais pas d'archive orale parce que je ne suis pas archiviste non plus. Par contre, je vous propose de questionner des femmes et de les laisser monter, de laisser venir ce qui est pour elles, un, la réussite, leur réussite, deux, leur intégration, et donc leur réussite de l'intégration. Donc je l'ai abordé de cette façon-là. Donc je pense que le problème de la réussite de l'intégration venait, alors je vous ai mis quelques citations qui ne vous intéresseront pas, mais il se trouve qu'il y avait eu quand même l'inauguration en 2014, hein, parce que le projet avait été lancé en 2015, nous on l'a récupéré fin 2016, il y a eu le discours inaugural au Musée de l'Histoire de l'Immigration de François Hollande qui parlait de l'histoire de l'immigration. L'histoire de l'immigration fait partie de notre histoire nationale, mais la réussite de l'intégration déterminera notre destin national. On voit bien comment de cette phrase a pu aboutir une problématique particulière. Donc, je vais vous montrer rapidement ce à quoi nous avons abouti, et ensuite vous expliquer toute notre démarche, puisque je ne voulant pas faire d'archives orales, puisque je ne suis pas une archiviste, je n'ai pas de centre d'archives, je n'ai pas non plus l'autorité institutionnelle pour le faire, j'ai voulu monter une exposition à partir des entretiens oraux et à l'aide d'un outil qu'avaient développé les Jardins Numériques, à l'aide d'un projet régional auparavant qui s'appelle Muséocube. Et maintenant on va faire un grand signe de croix, puis sinon on ne montrera pas, ce n'est pas grave. Puisqu'on n'a pas fait d'essai et je vais essayer.
Il fonctionne hein, chez vous donc.
Ah d'accord.
C'est juste que je ne sais pas si je suis connectée.
Voilà. Je vais laisser ça. On va aller très vite pour vous parce que ça va mieux faire mon discours.
Je vais recommencer là. Est-ce qu'il y a tout le monde?
je vais le taper, je pense. C'est bien, il commence à être indexé dans Google. Merci. Donc, Muséocube, c'est un outil d'exposition 3D qui est issu et multimédia, qui est issu d'un. Il y a des petits bruits d'oiseaux, c'est trop bien. D'un logiciel libre d'exposition 3D qui était courant, dont j'oubliais le nom, mais qui est assez classique, mais sur lequel, dans le cadre d'un projet, les Jardins Numériques ont ajouté un back-office d'administration qui permet à tout un chacun d'alimenter en continu et en permanence l'exposition avec, en ajoutant des films, en ajoutant des liens externes vers des URL, en ajoutant des textes, en ajoutant des photos, etc. Donc on a une sorte d'exposition permanente, si on le souhaite, qui peut être collective, qu'on va pouvoir réaliser soi-même. Et cet outil est utilisé maintenant dans le cadre de projets FEDER dans le 94, mis à disposition des enfants des collèges pour faire des expositions avec des professeurs d'histoire de l'art, par exemple, mais aussi autour de parcours dans la ville, etc., et qui permettent à chacun de créer quelque chose de différent. Et moi, j'avais toujours le sentiment que cet outil pouvait être un outil pour les mémoires, pour faire de l'exposé mémoire, et on avait là l'occasion de pouvoir le faire en vraie grandeur et pouvoir montrer le résultat. Donc, c'est bien de la 3D, c'est bien du parcours, il y a 3 salles. Donc on va pouvoir parcourir différentes salles. On a donc ici des films, des clips, des capsules de 12-15 minutes, hein, ce fameux format de capsule mémorielle vidéo montée que l'on peut consulter. On a des diaporamas avec des photos que nous ont donné les témoins, mis à disposition les témoins. Puis j'ai refermé tout de suite parce que comme ça on peut m'en rire. Voilà. Puisqu'on a peu travaillé sur l'esthétique de la salle pour des questions techniques, parce qu'on est encore en découverte de méthodes pour faire de jolis fonds, on a pris des salles assez neutres, et pour les différencier, on a mis une trace sonore, donc il y a un fond qui illustre différents moments de l'immigration, et nous avons donc créé 3 salles. Une salle consacrée à la... Alors, j'ai oublié de vous dire, je voulais faire parler les femmes, je voulais les faire parler devant leurs filles et leurs petites filles, ou arrière-petites filles si on avait, ou nièces, ou etc. Parce que j'avais le sentiment que l'intégration, ça ne peut pas s'évaluer sur une personne seulement, et ça s'évalue au fil des générations. Enfin, ça s'évalue. Ça se mesure, ça se pressent, ça se perçoit au fil des générations. Et donc, je voulais interroger les femmes avec leurs filles, leurs petites filles. Donc, on a 3 salles. La première est consacrée à la primo-arrivante. La seconde, plutôt aux enfants nés ou qui ont grandi en France. Et la troisième génération, ceux qui ont déjà pris une certaine distance, qui est une génération stratégique dans la mémoire, ceux qui vont donc faire une réflexion sur leurs racines. Hein, parce que ce sont la troisième génération qui... très rapidement, pour vous montrer les capsules... Je prends, parce que c'est celle que j'ai répétée hier, celle sur l'école. Puis on va, pour que vous voyez un petit peu ce que nous avons infligé à nos témoignages. Je vais même aller un peu plus avant. Ah, excusez-moi, il y a toujours par le wifi un petit moment de...
Travailler parce qu'elle travaillait à un moment avec ton père.
Avec l'ouverture du restaurant, de notre propre restaurant.
Et qui était
À l'Opéra, c'était en 73.
En 73. Et vous tous, vous travaillez dans le restaurant?
Non, j'étais la seule à travailler dans le restaurant, comme j'étais l'aînée. Voilà. Et eux, ils ont continué les études.
D'accord. Et toi aussi, tu as fait des études?
Oui, mais pas aussi longtemps que je voulais.
Tu as fait quoi comme études?
Normalement, je dois y aller en première et on m'a retiré de l'école. Bah oui, bah c'est comme ça. C'était toujours mon regret et je pense que mes parents, ils regrettent un petit peu maintenant, mais c'était... Bah oui, mais c'était comme ça.
Parce qu'il fallait que tu travailles.
Bah, parce qu'elle parlait français, c'était l'aînée, donc...
Déjà, à
13 ans, je m'occupe. L'orientation, puis très rapidement deuxième, parce que j'aime beaucoup ce deuxième témoignage.
Fin de la première partie au primaire, on passe après au lycée. Les deux dernières années, j'étais premier de la classe, j'étais deuxième de... Bien, parce que...
C'est le 15.
Ouais. Je suis arrivée 2 semaines plus tard et ils m'ont mis dans une classe. Et ma hantise, c'est de ne pas savoir dire où sont les toilettes. Donc j'ai appris très vite à demander où étaient les toilettes et dire oui et non en arabe. Et
j'ai
vécu dans un truc où je voyais des gens bouger, parler, mais je ne comprenais strictement rien à ce qu'ils disaient. Ça a duré 3 ans où j'ai absolument pas le souvenir d'avoir ouvert la bouche et d'avoir parlé. je me souviens juste qu'on était toujours au fond de la classe avec un autre jeune homme qui s'appelait Ennis. On parlait pas, même pas entre nous, tous les deux. Et c'est ce qu'on faisait aux grands quand on les mettait au fond de la classe. Comme ça, ils pouvaient dormir sans problème. La revanche, c'est qu'au bout de 6 ans, c'est-à-dire qu'à la fin de la première partie au primaire, on passe après au lycée, les 2 dernières années, j'étais premier de la classe, j'étais deuxième de la classe.
Je suis fière. Et elle est fière. Donc, pour vous montrer simplement le traitement qu'on a fait subir, parce qu'on a mélangé les entretiens, on les a montés, on les a coupés, on a parfois laissé la question, parfois pas, quand il y a des relances, on les entend. Bref, on ne s'est pas trop gêné avec ces éléments. Mais ça n'a pas été sans état d'âme et sans questionnement. Alors, comment on a travaillé, hein, pour avancer un peu rapidement sur... Déjà, le mélange des témoignages entre eux, hein, puisque vous vous êtes posé la question, enfin, la question s'est posée pour d'autres, hein, mais moi je suis libérée de la problématique. Je suis libérée en étant historienne archiviste, je suis libérée du réel, enfin de la vérité, de l'authenticité du témoignage et de la distanciation émotionnelle. C'est-à-dire que moi, peuvent raconter des cracks, mes témoins. Ce qui compte, c'est qu'ils les racontent. C'est-à-dire que s'ils éprouvent le besoin de me mentir, eh bien, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'ils éprouvent le besoin de me mentir. Donc j'ai une relation à la vérité, voilà, qui n'est pas celle de l'historien, parce que je n'ai pas à établir la véracité des faits. Ce qui compte, c'est ce qu'ils ressentent ça et qu'ils aient besoin de le dire comme ça. Bon. Et puis, voilà. Donc ça, c'est... Et puis l'émotion, bah, voilà, on sent de l'amertume, on sent de l'émotion. Ça en fait partie, c'est de la mémoire, c'est pas de l'archive. Donc, je voulais pas avoir une approche, parce que j'ai beaucoup travaillé l'anthropologie, hein, bien, je me dis pas anthropologue, mais j'ai quand même, c'était quand même mon ancrage, en tout cas méthodologique, dans mon travail. Je commence à en avoir ras-le-bol des cultures et de l'approche culturaliste. Pour un anthropologue, c'est un peu gênant, mais bon, c'est comme ça. Parce que surtout quand on étudie les migrants, je considère que c'est nier toute la contextualisation, c'est surdimensionné. C'est bien sûr qu'elle existe, et bien sûr qu'elle est importante, et bien sûr qu'il faut que les anthropologues travaillent dessus. Hein. Mais c'est surdimensionné les origines par rapport aux confrontations, au côtoiement, au contexte qu'on rencontre et à l'imprégnation des uns des autres qu'on a quand on vit dans un quartier d'immigration. Moi, j'ai travaillé sur Châteaurouge où franchement, les gens, ils se transforment les uns les autres à force de se côtoyer. Quand il y a 40 ou 50 ethnies dans un quartier, évidemment que ça a des effets aussi. Et je voulais pas non plus... Alors, je voulais donc ne pas avoir le témoignage d'une famille, puis d'une deuxième, d'une troisième, le témoignage des Maghrébins, le témoignage des Chinois, le témoignage des Italiens. Et en même temps, en les mélangeant, je voulais pas qu'on les compare. Ce que je voulais montrer en décidant de monter et de mêler, c'est l'idée que l'immigration, c'est aussi une culture transversale. La mobilité implique une culture de la mobilité que partagent ces familles. Elles se sont trouvées confrontées à différentes problématiques, l'école, la scolarité, le travail, l'arrivée en France, repartir au pays ou pas, etc. Mais chacun le résout à sa façon, et on ne peut pas dire qu'elle résolve ces questions-là de la même façon. Et notamment, le rapport à l'école est très différent d'une famille à l'autre. Mais la problématique école se pose, comme elle se pose pour des Français d'ailleurs, hein, la question n'est pas... Donc c'est de montrer, on a des problématiques communes, on les résout chacun à sa façon, voyons, sans dire que les Maghrébins le résolvent d'une façon ou que les Chinois le résolvent d'une autre façon. Parce que alors franchement, ce qui est un truc qui est bien sorti de là, c'est que chacun fait à sa façon, mais pas en fonction de sa culture ou de son origine culturelle. Voilà. Alors, nous avons utilisé un guide d'entretien. Bien sûr, on a quand même nos méthodes qui sont communes aux vôtres. Guide d'entretien qui... a essayé d'éviter de poser le mot intégration. Donc en général, c'était la dernière question dans laquelle on disait le mot intégration. D'ailleurs, parfois, la personne qui a fait l'entretien, pour des raisons de planning et d'agenda, j'ai préféré renoncer à faire les entretiens. C'est moi qui ai fait le guide, qui ensuite avait le projet, etc. dans ma tête, ce qui était gênant. Mais j'ai fait faire l'entretien par une autre personne qui est italienne, qui est journaliste et qui a également mené des entretiens de mémoire orale. Et j'accepte, ces relances ne sont pas celles que j'aurais faites, mais je l'accepte, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que du coup, il y a des choses qu'elle a établies que je n'aurais pas su établir moi. Donc, c'est intéressant de faire ça aussi, mais sinon, on n'aurait jamais pu trouver des dates dans les agendas. Donc, parfois, elle n'a carrément pas posé la dernière question où il y a le mot intégration. Dans les essais qu'on a faits, quand on a posé la question sur l'intégration, le témoin, généralement, a fait un bond qui ne faisait se cogner la tête au plafond. Mais c'est quoi l'intégration? J'aime pas ce mot-là, mais on s'en fiche, jamais je me pose cette question-là, intégrer, désintégrer, etc., etc. Bien. Alors que tout le récit auparavant ne parle que de ça. Mais le mot lui-même est un refus. Alors, ce serait intéressant que la DILCRA pose la question de ses appels à projets, parce que le mot nous alors, pose problème, du coup. Donc les questions qu'on a posées, simplement, c'était du récit de vie. D'abord, une première question à la femme la plus âgée, qui a souvent plus de 70 ans, récit de vie, mise en contexte de sa mobilité, pour avoir des repères un peu de principe, hein, de raison, parce qu'on a également mélangé les causes. On a des réfugiés politiques, des personnes qui viennent pour des raisons économiques, des gens qui font des va-et-vient, des mobilités provisoires qui sont devenues permanentes. Enfin, l'intégration ressentie, mais la question n'a pas été posée en ces termes-là, qu'est-ce qui a été facile? Qu'est-ce qui a été difficile à absorber dans la société française? Comment vous vous êtes adapté? Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour s'adapter? Les liens conservés ou pas avec le pays d'origine et comment ces liens sont conservés, par quel biais? Savoir où on est, les stratégies d'intégration, alors, les termes ne sont pas posés, entre parenthèses, c'était pour nous comprendre. Savoir où on est, quelles sont les stratégies pour, par exemple, qu'on a demandé aux enfants pour mieux vivre en France, c'est-à-dire d'apprendre la langue, de ne pas parler la langue originale, de bien travailler à l'école, ou au contraire, qui sont des méthodes comme ça dans les familles pour faciliter, rendre plus invisible l'enfant. Savoir d'où on vient. Par contre, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on a consciemment ou inconsciemment transmis volontairement, des recettes de cuisine, de la musique, n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'on fait pour que les descendants se souviennent du pays et connaissent le pays d'où ils viennent. Donc ça a été un élément très important. Qu'est-ce que c'est que la réussite pour vous? Réussite scolaire, réussite professionnelle, autre, en affaires, en n'importe quoi. Artistique, peu importe. Et puis pour les femmes qui avaient une activité associative ou militante, parce qu'il y avait également cette histoire de citoyenneté qui nous mettait un peu mal à l'aise et qu'on n'a d'ailleurs pas su du tout traiter. L'action associative, de parler de leurs actions associatives, donc on a quelques éléments. Association féministe, association de couture, de choses diverses. Et puis aux enfants et petits-enfants, on a demandé, selon eux, quels étaient les modes de transmission intergénérationnelle, comment eux avaient perçu la transmission. Parce que la femme primo-arrivante avait parfois, la grand-mère avait parfois le sentiment d'avoir transmis des choses, et les petits-enfants avaient le sentiment d'avoir reçu autre chose. Et puis l'intégration ressentie, donc comment eux se sentaient aussi par rapport à leurs racines étrangères, qu'est-ce que ça représentait pour eux, avec des résultats contrastés, différents, inattendus, intéressants, que je vous laisserai découvrir. J'ai ensuite, quand ces entretiens ont été faits, et on devait faire 12 entretiens, on en a livré 7, il y en a un qui a été écarté à la demande de la personne qui a fait l'entretien, parce que la mère était tout à fait partante pour faire l'entretien, mais elle ne voulait pas être enregistrée. Enfin, pour que les entretiens aient lieu, elle voulait que ce soit sa fille qui parle et elle ne voulait pas être enregistrée. Donc, elle ne voulait même pas être présente. Ce qui fait que la fille a livré l'entretien elle-même. Elle n'était pas très contente parce que, du coup, il manquait tout simplement les interactions familiales que ça permettait. Et elle n'était pas complètement satisfaite. Donc, je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes, mais on l'a mis de côté pour plus tard, pour le refaire, pour le reprendre. Et du coup, on a gardé 6 entretiens et on n'a pas réussi dans le temps imparti à en faire 12 pour des raisons diverses. Et on a gardé donc nos 6 entretiens de départ que j'ai dépouillés et analysés en 2 jours. Volontairement, je les ai écoutés dans un temps très court, donc pendant 2 journées pleines. Il y avait 12 heures d'entretien, à peu près 2 heures en moyenne par famille. Et je les ai analysés sous forme de fiches chronothématiques. Merci Florence pour cette méthode qu'elle promeut. En écoutant, en réécoutant parfois, et en notant le début, la fin d'un morceau, et en notant la thématique. Et puis des choses qui me frappaient, comme une émotion particulière qui passait, ou puis bien sûr les noms de villages que j'arrivais pas à percevoir et qu'il fallait ensuite arriver à fiabiliser pour bien comprendre de quelle région il s'agissait, également les éloignements géographiques. Hein, qui... Et des thématiques sont ressorties très vite. Le fait de pouvoir d'écouter en continu pendant 2 jours a fait que des thématiques se sont imposées relativement facilement. 12 thématiques divisées en 3 parties. Il y en a que j'ai éliminées, comme celle de l'investissement citoyen, qui pourtant est une thématique très intéressante, mais qu'avec les éléments, je n'ai pas réussi à traiter, que j'ai fini par éliminer. Et puis, sur la fin, on pourrait trouver à redire sur les thématiques recevoir et transmettre et le monde comme ressource, c'est pratiquement la même thématique, donc ce n'est pas forcément le bel ensemble en rythme ternaire et quaternaire que ça a l'air d'être. Ça pose beaucoup de questions sur ce qu'on a traité, pas traité. La première salle, c'est donc l'héroïne première, la primo-arrivante, son enfance, avant le départ, son enfance, à quoi elle jouait, quelle était sa vie, ce qu'elle a fait. Les histoires d'amour qui n'étaient pas une question qu'on a posée, mais on s'est rendu compte que c'est vraiment des histoires de couple, et toutes les histoires de couple, d'amour, de mariage imposé, mais en tout cas d'histoire de couple. Se débrouiller. On s'est rendu compte qu'arrivée en France, on a des récits extraordinaires d'une femme qui est arrivée en France sans parler la langue, après une nuit dans le train où elle s'est fait arrêter à la frontière parce que son mari lui avait demandé d'acheter une petite chaîne en or et qu'on lui a pris la chaîne en or, les douaniers lui ont pris la chaîne en or à la frontière. Elle est arrivée après un périple affreux, 22 ans, ne comprenant rien, croyant qu'elle allait rester à la douane sans arriver à Paris. Arrivant à Paris, le mari n'est pas là. C'est des histoires, voilà, le genre d'histoire qui fait mal, mais aussi ce que c'est quand on a 22 ans, qu'on arrive en France, qu'on parle pas la langue et qu'on a son premier enfant loin de sa mère, la maman ne peut pas venir, qui vous êtes, comment est-ce qu'on est accompagné dans ces expériences de femme, loin de sa famille et du support de la famille dans des événements importants. Voilà des exemples. Travailler, s'orienter dans la ville, apprendre la langue. On se rend compte que dans beaucoup de cas, les maris n'ont pas beaucoup aidé à apprendre la langue. C'était plutôt un frein, enfin, des choses comme ça, dans des témoignages. L'école, se débrouiller, puis rebondir, c'est-à-dire commencer à travailler, commencer à s'approprier les choses. Quels auraient été les éléments moteurs et déclenchants dans le fait, tout d'un coup, de devenir une personne à part entière du pays d'accueil. La salle 2 sont les enfants, soit nés, soit arrivés petits, en France, qui parfois ont fait du va-et-vient, et donc leur problématique, être enfant d'immigré, s'adapter aux problématiques de langue, devoir, etc., traduire pour les parents, jongler avec la langue, l'école, et l'importance et la pression parfois de la famille pour la réussite scolaire, hein, parce qu'on est à la fois porteur de la revanche, on est porteur de l'image du pays, de l'image de l'immigré, et de l'image de sa propre réussite, donc la pression est parfois très forte sur les enfants. La saveur du pays, le retour, les vacances, mais aussi tout ce qui fait qu'on est en relation permanente avec le pays, c'est-à-dire la musique, ça peut être des choses très différentes d'ailleurs d'une famille à l'autre, hein, la nourriture, enfin toutes ces choses-là. Et la troisième salle, le monde en héritage, c'est venu aussi du constat que parmi tous les descendants qu'on avait interrogé, et sans qu'on le veuille forcément au départ, tous avaient une activité internationale forte qui prenait différentes formes. Soit ils étaient eux-mêmes mobiles, avaient fait des études à l'étranger, avaient fait des Erasmus, soit avaient eux-mêmes épousé des conjoints étrangers, très fréquemment, soit avaient travaillé à un moment donné, ou parfois plusieurs choses à la fois d'ailleurs, ou bien alors avaient à un moment donné de leur vie, et pas forcément d'ailleurs au départ, et parfois pas forcément de façon volontaire, fini par faire un travail sur l'immigration. Un travail universitaire, une thèse, et la phrase d'un des témoins me revient, c'est « l'immigration, ça vous rattrape à un moment donné ». Et à un moment donné, on se retrouve, on doit faire un mémoire à 35 ans, reprend ses études, et il se trouve qu'on le fait sur l'immigration, ou sur son pays d'origine, ou sur quelque chose qui a rapport. Ça vous rattrape à un moment donné. Voilà. Mais on ne se sent pas particulièrement immigré, mais à un moment donné, ça ressort de cette façon-là. Voilà un petit peu les thématiques que nous traitons dans ce travail. Et puis donc voilà des questions, je vous laisserai lire, ce sont des questions qui ont été posées en 2010 dans un dossier que j'avais demandé à Florence de faire un travail sur sur les mémoires vidéo, les mémoires en ligne sur Internet. Et il y en avait très peu en 2010 à l'époque, donc Florence avait eu beaucoup de mal à trouver des exemples. Et elle avait surtout posé beaucoup de questions qui disaient, voilà une série de questions qui surgit ensuite en post-interview. Est-ce qu'on peut opérer un nettoyage des documents? Jusqu'à quel degré? Comment séquencer les entretiens filmés? comment décrire les documents, comment les indexer, comment les conserver, comment transcrire, quel type de script établir, quel est le statut de la transcription par rapport au film, on l'a évoqué tout à l'heure, qui en est l'auteur, faut-il le faire valider par le témoin, peut-on ou faut-il monter les documents, comment monter les entretiens, que fait-on des rushs, le travail de montage est-il un travail d'historien, d'archiviste ou de documentariste, quels sont les effets du montage, etc. etc. Ben, toutes ces questions, comme vous, on se les a posées, mais j'ai apporté des réponses différentes du fait de l'orientation du travail, mais ces questions, elles restent essentielles à chaque projet, et il n'y a pas une réponse unique. Il faut répondre en fonction de son projet et des personnes à qui on s'adresse. Pour finir, voilà comment j'ai procédé. Donc, j'ai transformé donc ces témoignages en fragments narratifs. De 12 heures d'entretien au départ, on est arrivé à 3 heures, à 12 capsules de 15 minutes environ, ce qui fait 3 heures d'écoute, mais délinéarisées, assemblées, thématisées et réparties en 3 salles. On a donc un empilage de narration. 6 premiers récits captés que nous avons montés de bout en bout, en éliminant uniquement les ratages, c'est-à-dire les « ah zut, le clap, machin, il y a du bruit, on recommence, etc. » On a éliminé ces choses-là. Mais on a gardé les questions et toutes les réponses qu'on a montées en bout à bout et qu'on a remis aux familles en disant « ça, c'est votre patrimoine, c'est à vous. Vous en faites ce que vous voulez. Mais vous en êtes dépositaire et c'est vous qui serez responsable de dire si vous voulez en faire des archives ou pas, des archives familiales, si vous voulez les conserver et les utiliser, les dupliquer, les donner à d'autres personnes. Nous, on a donc fait un montage, ce qui veut dire qu'il y a eu d'abord mon intention à moi, ma volonté à moi, qui était cette vision que j'avais de l'expo 3D et des clips. J'ai donc remis des instructions de montage, mais très, très souples, à la monteuse, en lui disant de là à là ça parle de ça, de là à là ça parle de ça, de là à là ça parle de ça, puis après on a regardé, j'ai dit ça serait bien de garder ce moment-là, de garder ce moment-là, etc. Puis je l'ai laissé travailler. Et elle a dû ensuite faire avec la durée. Donc elle a parfois éliminé des choses qui étaient redites entre différentes familles, ou alors des choses qu'il fallait couper pour garder les 12 minutes, donc elle a coupé des choses en son âme et conscience et en fonction de ses choix personnels. C'est une de mes élèves, anciennes élèves, elle a été formée aux archives orales, à la documentation, au recherchisme, à tout. Elle sait très bien, je lui faisais confiance, et c'est elle qui finalement a eu le final cut. Donc moi, on a visionné ensemble, j'ai parfois fait des ajustements, mais il y a donc son regard à elle, avec son métier à elle, de ça, ça passe mieux, ça, ça passe moins bien. Et les choses, c'est intéressant de les avoir, et ensemble on a dit, ah ça c'est intéressant de les avoir juste l'une après l'autre, c'est intéressant de les entendre assez proches, ces témoignages-là. Donc qui est déjà un deuxième récit, et un deuxième récit qui est le mien. Faut pas se leurrer, c'est moi ce que j'avais envie de raconter et de montrer, c'est-à-dire les générations, l'indifférence, etc., qui est mes personnelles, qui sont mes croyances personnelles dans l'immigration. Donc, ça, c'est mon récit à moi. Et puis, il y a une troisième narration, cette fois-ci que j'ai confiée à une équipe des jardins numériques, qui sont plutôt des technico-graphistes, des femmes qui font souvent du documentaire, qui ont manipulé, elles, l'outil MuséoCube, ce qui prend du temps, que moi, je n'avais pas le temps de faire, et qui ont créé ce parcours. Alors, j'avais présélectionné avec des témoins des photos, en disant aux témoins, les photos que vous préférez, ce n'est pas forcément celles qu'on va garder nous, parce que vous, les témoins, mais vous pointez souvent une photo disant, ça, c'était telle personne, elle était importante pour moi, parce que elle est morte, je pense souvent à elle, etc. Mais quand on voit la photo, ça ne nous parle pas à nous, dans le cadre d'une exposition. Donc on a gardé des photos symboles, des photos illustrations, qui avaient parfois beaucoup moins de valeur pour le témoin. Et ça, je les ai prévenus, on a choisi ensemble, je leur ai expliqué. Quand on expose, et on choisit des éléments qui touchent à quelque chose d'universel. Donc, ce n'est pas la même chose que ce qui touche au patrimoine de la famille. Et ça, il ne fallait pas les vexer, il y avait une précaution à prendre. Et puis, donc, ça a été assemblé dans un parcours par d'autres personnes, donc par ces deux dames qui ont rassemblé les photos, qui les ont choisies, qui en ont encore éliminé, qui ont créé le parcours, l'environnement, etc. Et puis, avec la monteuse recherchiste, on a fait cette trace sonore qui doit nous permettre de nous repérer dans les différentes salles parce qu'elles se ressemblent et d'avoir un peu un élément sonore qui permet de savoir où on se trouve. Donc, de quoi s'agit-il ? Alors, d'abord, je dirais, c'est pour conclure, on a un procédé très inégalitaire, c'est une captation de parole. Et de toute façon, tous les récits mémoriels sont des captations de parole, mais il y a quand même des degrés, là on est allé très fort. Autant, alors qui va du moins, du plus respecté, les récits qu'on a donnés aux témoins, à une captation totale, qui sont les montages des clips et l'exposition, parce que le montage des clips, c'est inégalitaire. Les familles ne voient pas la totalité et l'ensemble de ce qu'on a fait. Il n'y a que moi qui ai vu l'ensemble des choses, et donc elles ne savaient pas ce qu'on allait faire avec leurs entretiens. Elles savent qu'à tout moment, même après avoir signé les droits de diffusion, elles peuvent faire retirer quelque chose qui ne leur plaît pas. À tout moment. On remontera les choses s'il le faut dans 10 ans, dans 5 ans, s'il le faut. Et puis, l'exposition, c'est une troisième captation de parole, parce que pour créer un parcours qui puisse quand même concerner des gens, qu'on ne comporte pas en courant dès la première seconde qu'on est dans cet environnement-là, les contraintes techniques, les contraintes de l'exposition, ben, c'est une troisième relecture. J'aurais mis beaucoup plus de photos, j'aurais pas fait comme ça. Mais c'est d'autres contraintes qui se sont posées. Donc on s'est tous finalement capté la parole les uns les autres. On a fait un travail collectif finalement. Ce travail, il n'a pas vocation à être achevé. Je regardais tout à l'heure, je ne savais plus comment j'avais fait signer les contrats de diffusion. Les droits de diffusion, ce que je fais souvent, c'est que je les fais céder sous licence Creative Commons. Et ici, c'est une Creative Commons, bail, évidemment, les auteurs sont cités, non commercial, non modifiable. C'est-à-dire qu'on ne doit pas démonter les montages. Et on n'a pas le droit d'utiliser à des fins commerciales. Et la durée de ce contrat est de 10 ans. C'est-à-dire que dans 10 ans, on remet les choses à plat. Dans 10 ans, avec les personnes qui seront là, les familles, et j'espère les témoins seront encore là. Mais bon, peut-être certains ne seront plus là, j'ai malheureusement l'habitude de... d'apprendre des décès, on remettra en question, est-ce que vous voulez qu'on essaye d'archiver? Est-ce que vous voulez qu'on signe notre contrat, mais cette fois-ci sur la durée? Est-ce que vous voulez que cette chose-là soit pérennisée ou pas? Mais ça n'est... on laisse le temps de la réflexion parce que les choses vont évoluer. Voilà, les choix qu'on a faits sur ce projet.